Vous écoutez Les films dans le cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Fidèle à nos habitudes, on commence par remercier la microbrasserie Les Grands Bois pour les excellentes bières qu'on boit pendant nos enregistrements. On remercie aussi Cuisinic. Si jamais vous cherchez un ébéniste pour chez vous, allez voir ce qu'ils font sur Facebook, Instagram. La tête va vous fendre en deux, puis eux, ils vont pouvoir remplir ça avec de l'époxy. Et comme vous l'avez peut-être constaté, nous sommes toujours à distance. Une pandémie mondiale nous y oblige, mais ça ne nous empêche pas de recevoir notre ami l'excellent Steven Lefrançois du podcast Séance de minuit pour parler d'un must en matière de nanar, Miami Connection. Bienvenue dans le cabanon, ça roule messieurs?
Oui.
Bonsoir.
Yeah. À la maison, vous aurez remarqué qu'on a un invité avec nous aujourd'hui. Vous allez peut-être reconnaître la voix d'un des co-animateurs du podcast Séance de minuit. Steven Lefrançois est avec nous.
Hey, salut messieurs, très heureux d'être ici ce soir. Je me sens un peu cheap par contre, parce que je sais qu'en temps normal, c'était supposé être mon collègue Marc-Antoine Labonté qui devait faire un épisode. Ouais. Puis je me sens comme le meilleur ami qui a volé l'ex de sa blonde. Fait que c'est pas correct.
Ah, oh, mais c'est partie remise pour Marc-Antoine. Puis d'ailleurs, les gens qui ont voté pour le film Street Racer ou Torque, on va faire Torque pareil, mais on va juste attendre Marc-Antoine parce que c'était avec lui qu'on était supposé le faire. Là, j'ai parlé de séance de minuit. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas nécessairement, nous, on en a parlé souvent au podcast. Mm-hmm. Mais mettons quelqu'un là, qui nous découvre avec cet épisode-là, explique donc c'est quoi séance?
Écoute, c'est assez simpliste. C'est un podcast sur le cinéma. On est beaucoup concentré sur le cinéma de genre, mais on essaie de quand même varier beaucoup depuis les dernières années. Ça fait quand même 4 ans qu'on fait ça. On est 3 chums, moi, Marc-Antoine Labonté et Jean-François Ouellette. On fait des top 10 des fois, mais on fait aussi des films thématiques. On choisit 3 films qui sont relativement reliés. Des fois, ça peut être un acteur ou un thème. Puis on essaie juste d'en parler non seulement avec passion, avec plaisir, mais aussi de décortiquer puis d'aller fouiller profondément qu'est-ce qui en ressort. Des fois, ça peut être en termes de symbolisme, un peu qu'est-ce qui est relié à l'œuvre puis le réalisateur ou les acteurs. Fait tu sais, au lieu de juste voir des films, faire « ouais, c'est bon », puis c'est tout, on essaie quand même d'apporter un petit peu plus de pertinence.
Je sais pas comment vous dire ça, les gars. Je pense pas que quelqu'un qui a failli tuer Uma Thurman dans un crash de char, puis quelqu'un qui a backé Harvey Weinstein, même quand il avait agressé sa blonde, et habileté à faire un film où un gars défonce la gueule de 2 jeunes femmes avec genre la pire violence que j'ai pas vue. J'ai crissé mon camp, je le répète là. J'ai trouvé ça malsain. J'ai trouvé que Quentin avait enfoncé sa tête tellement profondément dans son propre cul que j'étais pas capable de le suivre dans ce trip-là. Puis je pense qu'on peut dire que c'est un cas de qui aime bien châtie bien. Peut-être que nos auditeurs vont trouver que je suis excessif. Ça vient peut-être de l'émotion. Si ça avait été un film de Michael Bay, je m'en serais peut-être plus crissé.
Ben, c'est ça. En gros, on a beaucoup de plaisir avec tout ça. On s'amuse à faire des top 10 des meilleurs slashers. Comme là, dernièrement, on fait des tops sur les meilleurs films de l'année, ce qui est un cliché. Tous les podcasts font ça. C'est pas nouveau. Mais c'est ça. C'est notre petit dada. On fait ça depuis 2017. On a beaucoup de plaisir. Le podcast commence à avancer de plus en plus. On a un nouveau logo. On passe un peu en mode 2.0, entre guillemets. Mais c'est ça. On a beaucoup de plaisir à faire ça. Fait que si vous êtes amateur de cinéma, je vous conseille de peut-être tenter le coup. On a quand même beaucoup de plaisir à enregistrer ça, puis on essaie d'être le plus pertinent possible.
En face, vous êtes vraiment connaisseurs. Tu sais, c'est pas juste 3 dudes qui parlent de cinéma. Là. Des fois, j'ai l'impression que nous, dans Cabanon, on est 3 dudes qui parlent de cinéma.
Je pense que c'est un bon film.
Là, je vous écoute, je fais comme, OK, non, c'est 3 connaisseurs. Ami, oui, mais connaisseur de cinéma, pour vrai, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, c'est sûr que va triper sur votre podcast parce que c'est intelligent, il y a des références, tu sais, je veux dire, c'est, oui. Il n'y a rien qui est garoché. Là.
Ben, je suis d'accord, quand je vous écoute, je me rends compte que je ne connais pas le cinéma.
Moi, pour vrai, mon pénis, il rapetisse à chaque fois que je vous écoute, il est rendu minuscule. Mon pénis de cinéma, là, évidemment.
Là. C'est un verre, peut-être? Ou un champignon?
Shiitake.
Aujourd'hui, on parle de Miami Connection, qui est une suggestion de Joël et Steven presque en simultané. En fait, Steven s'est proposé avec Miami Connection quand Marc-André a dû se Marc-Antoine a dû se désister. Puis Joël l'avait proposé comme quelques secondes avant. Encore une fois, on se complète super bien. Puis c'est un must en termes de nanar. T'sais, c'est un film qu'on a sur notre liste depuis le jour 1 du cabanon. Il y en avait même son affiche dans notre premier décor. Je sais pas pourquoi qu'on le repousse. On aurait dû en parler avant. Puis moi, j'aimerais savoir, Steven, c'est quoi ta relation avec ce film-là? Ça fait combien de fois que tu vois ça, là?
Oh my God, j'ai dépassé au moins les dizaines d'écoutes faciles avec ce film-là. En fait, c'est que, comme vous, je suis quand même un amateur de nanars. J'en bouffe. Puis c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, j'ai mis mon chandail de Dead Wish 3 parce que je suis un gros fan de la Canon. Canon est réputée pour beaucoup de nanars. Fait que je pense que vous devriez en faire plus prochainement. Ça serait vraiment nice.
T'as raison.
Et c'est ça. Je suis surtout un fanatique de ninja, de films de ninja. Puis en 2012, il y a une bonne annonce qui est sortie. Une bonne annonce de Miami Connection, puis ça a été monté par Jason Eisner. C'est le réalisateur de Hobo with a Shotgun. Puis ce gars-là fait des merveilles en termes de montage vidéo, puis il a monté sans doute un des trailers les plus épiques.
We have the one, the only, Dragon Sound!
This band is the only family I have.
They're all black belts in taekwondo and they're pretty bad.
I don't want you to mess it up by going out with a second-rate musician like that John character.
They came in here to play goddamn songs for kids!
Not escape the Miami Ninja!
Fait que quand t'écoutes le trailer de Miami Connection, tu te dis, ça va pas être un bon nanar. Tu te dis, ça va être un Christy de bon film d'action des années 80, tu sais. Puis après ça, je me suis commandé automatiquement le Blu-ray. Et j'ai fini par juste apprendre les répliques. Et je me suis dit, crime, on tient vraiment de quoi, là? Qui avait sombré dans l'oubli. Parce que oui, c'est un film qui a eu une certaine grosse sortie à l'époque. Mais je veux dire, ça a tellement bombé qu'il n'y a aucun distributeur qui voulait le distribuer. Puis ça a comme passé dans l'oubli. Puis là, t'as Draft House qui te sort un Blu-ray, remasterisé comme en 2K. Super belle image, super beau son. Tu sais, meilleur traitement que des gros classiques en temps normal qu'on n'a pas en Blu-ray. Et vraiment, ça a été une claque. Pour moi, je mets ça à côté d'un Samurai Cop ou même d'un The Room. Tu sais, c'est un film où le monde essaie de faire réellement un bon film. Ça marche pas, mais il y a tellement de passion dans le projet que t'as juste du fun à voir ça parce que tu sens qu'il y a du cœur d'ouvrage, mais en même temps, c'est tellement maladroit, c'est tellement stupide sur tellement d'aspects. Puis c'est ça. Le film accumule tellement de moments clés cultes à mes yeux que je me dis, écoute, vous allez avoir un fun monstre avec ce film-là. C'est impossible que des films dans le cabanon ne fassent pas Miami Connection.
Fait qu'on parle de Miami Connection, un film d'action indépendant tourné en 87, sorti en 88 et qui nous provient des États-Unis d'Amérique!
America! Fuck yeah!
Le synopsis du film va comme suit. C'est des motards ninja qui resserrent leur emprise sur le trafic de stupéfiants en Floride et anéantissent tous ceux qui osent se mettre en travers de leur chemin. Et tous ceux qui osent se mettre en travers de leur chemin, je vais ajouter que c'est le band Dragon Sound auquel on va venir assez rapidement. Là. C'est un film qui est réalisé et écrit par Richard Park, a.k.a. Usang Park, et YK Kim, qui est aussi la vedette et producteur du film.
Richard avait, pour faire une histoire courte, on m'a appelé Richard en bon
Rich.
Richard, c'est un réalisateur d'une vingtaine de films des années 70-80, majoritairement en Corée du Sud. Et fait que je me risquerai pas à dire les titres de ses précédents films. Je sais pas, Steven, si tu veux t'essayer.
Oh non, je suis dans le même panier que toi. Je vais pas me prononcer.
Il y en a un que je peux nommer, c'est American Chinatown de 95, qui met en vedette un des gars qui revient souvent dans le cabanon, Robert Zedar. Scout Shiner. Un nom bien connu dans l'univers du nanar. Puis pour faire une histoire courte, Richard voit Kim qui fait la promotion d'un livre sur le taekwondo à la télé coréenne, si je ne me trompe pas. Puis il imagine un film le mettant en vedette, le rencontre, va le convaincre de faire un film. Et finalement, c'est un film qui va se faire avec un budget $1 million issu principalement des poches des amis d'emprunt du côté de YK Kim.
That 10 million is big money. My house, my building, all is gone, you know.
You had put all of your holdings
yes.
and
yes.
some
everything
of your students.
What I had, you know, I put in and all gone. I stop everything and cry and shame. All my success will go.
Puis il n'a jamais fait de film avant. Fait qu'il espérait trouver un distributeur qui accepte d'acheter le film. Mais des centaines de personnes l'ont viré de bord. C'est un film qui est sorti en salle en août 88. Qui passe un peu sous le radar, reçoit une couple de mauvaises critiques, a une carrière en salle de 3 semaines, ce qui est relativement court. Mais c'est ressorti dans les années 2010 grâce à un exploitant de salle dash distributeur des États-Unis qui, lui, est tombé là-dessus à acheter une pellicule 35 mm sur eBay. Puis a projeté le film, un paquet de projections sold out. Il va finalement le distribuer et là, c'est devenu le film culte dans l'univers du So Bad It's Good qu'on connaît aujourd'hui.
This is an original 35 mm print of the movie Miami Connection, which I blind bought on eBay for $40 in 2009. I had no idea what the movie was aside from the title. But when I played it for a theater full of people, everybody, including me, went completely apeshit.
The Miami Connection!
We all agreed it was one of the best movies that we'd ever seen in our entire lives.
Je passe vite sur le cast parce que c'est presque tous des gens qui ont pour seule expérience Miami Connection. Ça met en vedette YK Kim, co-réalisateur, co-auteur, producteur, dans le rôle de Mark, un des seuls personnages dont le prénom commence pas par J. D'ailleurs, la liste des personnages est très originale. Hein? Jane, Jeff, John, Jack, Jim, on dirait des enfants qui jouent à la guerre. clairement, c'est pas dans ce passage-là de la production que le 1 million est passé. L'artisan le plus prolifique de cette production-là, c'est sans aucun doute le directeur photo et monteur Maximo Monzi de Buenos Aires.
Buenos Aires!
Buenos Aires!
Le seul projet qu'il a monté, c'est Miami Connection, sur lequel il est aussi directeur photo, mais il est crédité pour la DOP d'une centaine de TV movies, dont quelques-uns de Noël. Terreau fertile du TV movie, quand même, là, les films de Noël, il y en a un peu un autre. Là, ça vient meubler là, toutes les après-midi de nouveau, en fait. 365 jours par année.
Si on mais il y a Netflix aussi, hein? Netflix qui en fait.
Ils sont rendus forts là-dessus. Là.
T'as bien raison. C'est vrai.
Ça s'envie le Hallmark Channel tranquillement Netflix.
C'est ça. Spread the joy.
That's so good.
Experience the laughter.
Slow down by the pool.
Oh boy.
Le film part sur des shots de Miami, puis à ce moment-là, un peu comme Jean-Gab, j'étais comme, c'est vraiment un film de cabanon, tu sais, parce que me semble que c'est un look correct, ça look décent quand même, tu sais. Puis, mais vite, on tombe sur un deal de drogue, puis là, il y a un paquet de bikers qui foncent vers eux, puis des ninjas qui rampent dans les bois. Puis j'étais pas certain, tu sais, les ninjas tuent les bikers, puis encore, au moment où on se parle, j'étais pas si sûr.
En fait, c'est des ninja bikers. Attends, vas-y, je vais voir
non, ce que juste dire, le deal de drogue, probablement un deal de drogue dans les années 80, tous les méchants faisaient des deals de drogue tout le temps. Puis c'est un deal de drogue silencieux. Personne ne parle, ils sont juste là.
Oui.
Il hoche la tête et il disait rien. OK, c'est ça le deal, mais tu sais, personne ne parle.
C'est là que le film est à son meilleur quand personne ne parle.
Ouais.
I found my father! Oh my God!
Il y a comme un goon qui se prend des étoiles de ninja dans le cou, puis un autre se prend un coup de sable dans le front, puis c'est drôle. C'est une scène de. de combat. Puis, tu sais, honnêtement, c'est une des forces du film, je pense, des scènes de combat. C'est
quand même combat à plusieurs reprises.
Ouais, c'est ça. Beaucoup de combats, puis majoritairement beau. C'est peut-être au niveau du montage là, que ça les gâche un peu. Là, des long reaction shots de quelqu'un qui crie comme « Ah! »
Vous avez sûrement remarqué celui au début qui monte les escaliers avec un bâton, puis on dirait qu'il ne sait pas où regarder, puis là, il est là, puis il se retourne, puis là, il se fait attaquer. Zéro acting de la part du cascadeur. On dirait des réactions d'un jeu de PlayStation 2 qui n'a pas été peaufiné. Fait que, tu sais, le AI n'est pas génial, fait que les ennemis bougent un peu tout croche.
Ouais, il y en a un gars au début, un espèce de garde avec un Uzi là, qui est là, puis. Le combat n'est pas encore commencé, il est juste avec son gun. Puis,
Il bouge-tu comme dans GoldenEye, Joël? C'est ça?
Ouais, c'est ça. Exact.
Pour plugger GoldenEye.
Ouais.
Bien joué, Anto. On le cherchait où le plugger.
Le lien est so-so, mais je vais le prendre pareil.
Fait que le boss des ninjas qui fait un debriefing avec ses ninjas, puis il dit: vous avez tout pas amené l'argent, c'est moi qui l'ai amené. Fait que là, la prochaine fois, vous focussez là-dessus, puis il donne de la merde à ses ninjas. Puis...
Le ninja blanc? Dans tout bon film de ninja, il y a un ninja blanc.
C'est vrai, ouais, mais d'habitude, c'est le contraire. Tu sais, c'est, le héros est supposé
être ninja
blanc, puis le méchant en noir, mais là, c'est le contraire.
Puis ces ninjas-là, on les revoit presque pas du film. On les revoit à la fin, c'est tout. Là.
Bon, même affaire, l'intrigue avec la drogue, ça disparaît complètement. Là,
c'est pour montrer que c'est des méchants. Tu sais,
c'est ça. Là, on va tomber dans la guerre des bandes.
Ouais, mais en fait, il y a un générique. Bon, c'est vrai, la guerre des bandes. Ça devient rock and roll. Il y a un générique d'ouverture, puis il y a plein d'images. Puis je checkais le générique d'ouverture, puis j'étais comme, c'est un générique comme Mission Impossible qui nous dévoile toutes les scènes qui s'en viennent. Tu sais, les génériques de Mission Impossible, même dans les plus récents, tu vois toutes les grosses scènes du film comme dans un générique de 30 secondes.
J'aille ça quand ils font ça. C'est comme...
J'aille ça,
je fais exprès d'éviter les bandes-annonces pour pas me gâcher les 7 pistes, puis là, tu me balances les 7 pistes en 30 secondes.
Exactement, ouais.
Puis là, t'as un karatéka qui rate de casser des planches en feu, là. Tu sais, je sais pas, mais tu mets pas ce shot-là. Il essaie de casser, puis là, il y a la moitié qui tombe, puis là, tu comme...
Ah, ouais, mais en fait, c'était la meilleure sur les 56.
Ouais, il commençait à avoir chaud, là, il était brûlé. Ça,
mais comment qu'il casse les planches, c'est comme ça. Tu sais, un peu, tu sais, en Slappers Only, là, en GoldenEye. Là.
Ouais, c'est ça.
Check.
Fait qu'on découvre le groupe Dragon Sound qu'on va suivre tout le long du film. Là. C'est comme le clip de la chanson Friends. Il y a deux grosses chansons là-dedans. Là.
C'est un beau vidéoclip. On dit que dans ces années-là, les années 80, il y avait beaucoup de vidéoclips, des moments musicaux dans les films. Aucune raison, parce que c'était cool. C'était à la mode.
Oh, c'est long, là. Ils assument. Là, on va l'entendre jusqu'à la fin.
C'est une toune complète. On essaie de simuler cette vibe-là, années 80. C'est quelque chose qui revient. Là, j'ai vu... c'est l'an passé à Fantasia qu'il y avait Aquaslash, je pense. Puis il y a ça aussi, le beau vidéoclip sur la plage. Là, c'est vraiment important.
En même temps, c'est des chansons qu'ils ont composées exprès pour le film. Puis je pense que lui, c'est un des personnages, j'oublie tout le temps le nom, fait que je l'appelle le moustachu, qui joue de la guitare, qui a son solo de gloire à un moment donné.
Ouais, je pense c'est que tendre, lui, je pense.
Je pense qu'il pensait réellement se promouvoir avec ce film-là, avec ces chansons-là, puis peut-être avoir une carrière de musicien, mais ça n'a pas abouti.
Bon, je veux juste prendre quelques secondes ici là, pour corriger le tir, parce qu'en montant l'épisode au fil de mes recherches, j'ai réalisé que Angelo Giannotti, le guitariste et compositeur de Miami Connection, a en fait poursuivi sa carrière en musique malgré le flop du film. En fait, il y a quelques albums solo à son actif, il donne des cliniques de guitare, il a joué dans un band country qui s'appelle Outbound Road, et aussi dans un band de cover qui s'appelle Skin Deep. Il a accompagné le chef de culte Ron Kennelly dans ses concerts donnés devant des milliers de personnes. Et finalement, il semblerait que Angelo Giannotti ait joué de la guitare sur l'album Backstreet's Back des Backstreet Boys.
C'est quand même deux chansons crissement catchy. Là. Je veux dire, un coup, tu as vu le film, ça reste en tête. Puis j'ai passé, je pense, les dernières années à m'y retaper constamment. Là.
Against the Ninja, ça sonne vraiment comme du Pat Benatar.
Ouais, Taekwondo!
On n'est pas sûr si c'est Take One ou Dave Grohl. C'est Dave Grohl.
Je veux dire que le chanteur avec sa moustache et son mulet en bédaine, là.
Ah, tiens. Ouais. Ben, le claviériste en bédaine, Jim en bédaine. Mark, qui est joué par YK Kim, qui est le personnage principal, on va dire. Clairement, c'est la première fois de sa vie qu'il tenait une guitare, là.
Il joue un peu comme mon père essaie de jouer à Guitar Hero, là, comme trop joyeux. Pis...
On passe à l'université, on les voit en classe. On voit un prof qui est d'ailleurs un prof dans la vraie vie. Quand je vous disais plus tôt que tous les acteurs sont issus soit de l'école de Taekwondo, de YK Kim, ou c'est des gens qui n'ont jamais joué ailleurs, ben ça, c'est un exemple. Là. Un véritable prof qui joue un prof. Plus tard, il y a deux véritables policiers qui jouent des policiers.
Et cette scène-là a un des meilleurs effets sonores du film.
Oui.
Les pitonnages, c'est des mitraillettes. Great job.
Ça, c'est vraiment le stéréotype du programmeur en plus. Là, genre, ouais. Tout le monde est comme over nerds. Là,
ouais, là, Jane a dessiné un cercle, je sais pas trop. Ouais, ah, un nice circle.
La différence est marquée entre la véritable prise de son puis l'overdub aussi. Là.
Ben oui,
la scène qui suit en est un exemple parfait. T'sais. On parlait de mauvais design sonore. Le bassiste John débarque et va faire des grimaces à Jane, c'est adulciné. Puis ils vont aller marcher ensemble dehors. Puis là, on n'entend que des bruits de pas. Puis eux autres, super loin. Jusqu'à temps qu'on tombe sur le contre-champ. Et là, on tombe en doublage et les voix sont rendues méga proche tout d'un coup dans le mix. C'est super.
Ça arrive souvent. C'est un mauvais trop de son ambiant.
C'est un mauvais film à écouter quand tu veux faire dodo. Tu sais, des fois, tu te mets un film de dodo, puis là, tu mets tel volume, mais là, tu le fous, tu le rebaisses, tu le remontes, ouais. Tu le rebaisses. I think it's time I go meet him. Where is he? I'd like to meet him. He's gonna meet me after school. But before you meet my brother, I need to warn you. He's involved with a group of really shady characters. He's extremely jealous. Mais ça, je pourrais pas mettre ça comme film de dodo, parce que c'est sûr, j'aurais la PAC qui shake, mettons, à cause de la musique rock. C'est juste comme, oh, ouais, c'est hot.
Les badass débarquent. La caméra va sauter l'axe 2-3 fois à ce moment-là. Ça devient très bizarre, ce découpage-là. Là, Jane va dire à son frère, le badass. He's a friend of mine from school. A friend? Fait qu'il calisse une volée à John, le chum de sa sœur, pour aucune raison, juste pour comme être violent puis avoir une scène de combat.
C'est peut-être incestueux comme dans Scarface. Peut-être qu'il est amoureux de sa sœur.
Peut-être.
Pas développé, mais
je pense pas que c'est aussi deep que ça, mais c'est ma théorie.
Le film part avec un deal de drogue, mais vite, on se rend compte que le vrai problème dans cette ville-là, c'est la guerre des bandes. Une chance, on a évolué quand même. Ben, j'imagine mal, mettons, Éric Masson qui réussit une volée à un nouveau chansonnier.
On dirait comme la prémisse, le concept d'un cartoon du samedi matin. C'est comme un band qui est des justiciers qui vont battre des ninjas, tu sais.
D'une comédie musicale. C'est le pitch perfect du rock des années 80.
Non, dans le fond, c'est le Jem et les hologrammes masculins.
Les Dragon Sound débarquent. Pour aider John le bassiste. Puis là, Mark, qui est YK Kim, dont on parlait de l'accent plus tôt, va dire « You don't scare me at oil. »
Don't scare me at oil. Jane, I want to talk to you later.
C'est comme si c'était des justiciers, mais c'est pas clair. Ça l'est pas. On les voit pas comme
combattre la crime. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis avant de redevenir des justiciers, on retourne déjà à eux avec la chanson. T'sais, on est dans un bar, cette band-là joue dans un bar, ce qui était réaliste. Là. Dans les années 80, il y avait plus de bandes que de chansonniers, je pense, dans un bar.
C'est quoi ça, un bar? C'est pas un bar.
Dragon Sound se promène dans la ville, puis il y a un barrage devant eux. C'est l'ancien band qui est en tabarnak d'avoir perdu sa place.
Cette scène-là est vraiment hot. On se croirait genre dans Street Rage 2, c'est ça, au Sega?
Ouais, Street of Rage, c'est vrai.
On est dans ce mood-là, puis c'est tellement malade, là. Puis t'as toutes sortes de méchants style punk, ou t'as l'espèce de. t'as l'espèce de pseudo Ken Hodder. Je dis tout le temps Ken Hodder, comme si vous le connaissiez, mais Ken Hodder, tu sais, c'est lui qui fait Jason Voorhees dans Vendredi 13, chapitre 7, 8, Jason X, et ainsi de suite. Parce qu'il y a vraiment la même barbe, la même texture de visage.
OK, l'ancien frontman de l'ancien groupe de musique, c'est Jason, c'est ce gars-là?
Oui, c'est ça. Oui, c'est lui. Ouais.
Ah, ouais!
Non, mais c'est pas le vrai acteur. Lui, c'est juste un sosie. Là. Je l'appelle Ken Hodder, mais c'est pas réellement.
OK, t'as déjà écouté notre podcast, là, appeler des comédiens par le nom du personnage. Je comprends.
Plus facile Patrice. D'identifier qu'avec le nom du personnage.
Ben oui.
Patrice Cockro, il joue dans Love on a Leash, by the way.
Ouais, puis la scène de cette scène de combat-là, tout le monde fait la file pour se faire péter à gueule aussi. Moi, ça me fait capoter.
Ouais.
Tu sais, son 5 contre 30, là, puis les 30, ils attendent leur tour pour être sûr de manger un coup de bâton en face. Là, ouais, ouais.
Faut juste mentionner qu'avant que le combat commence, c'est y en a un des gars, je sais pas si c'est le gars frustré, mais il verse de la bière sur la tête.
Ah, c'est son chum, ça, ouais.
Je pense que c'est John qui est comme le passager avant, puis il essaie même pas d'éviter la bière, même qu'il se présente la tête proche de la bière. OK, bah, tu vas me verser de la bière. OK, voici ma tête. Il se tasse vraiment la tête.
Non, mais pourquoi ça. Refuser de la bière gratuite? Tu sais, t'as juste à lever ta tête pour ouvrir ta bouche et voilà.
Ouais, donc, mon Joe. Ah ouais, Joe.
S'il manque, ça va paraître bizarre sa caméra, hein, ça va être ça.
La brute, toi. Ça, c'est beau.
Fait qu'il y a cette scène-là super dramatique où Jim va avoir sa lettre. Puis honnêtement, j'ai pas été assez attentif à ce moment-là. C'est quoi la lettre? C'est une lettre qui dit il sait toujours pas c'est qui son père.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui est hâte. C'est que mettons, il arrive pour ramasser la lettre puis il se fait niaiser par son ami. Mais c'est semi-violent un peu, là, t'es genre, ce qui se passe. Give me the letter now!
Il est là en train de raconter l'histoire qu'il connaît pas son père, que sa mère était coréenne, mais finalement, il nous dit pas le contenu de la lettre.
Non, c'est ça. Je sais pas qu'il braille de même. C'est tout qu'il y a dans cette lettre-là.
Il y avait pas besoin de brailler.
Il était mort, en fait, à ce moment-là.
Non, mais d'après moi, je pense qu'il a engagé des détectives puis qu'il reçoit des lettres pour savoir s'il a retrouvé son père. Puis là, I guess qu'il n'y avait pas de réponse, comme il savait pas où son père était.
I sent a couple letters to the police department.
Je sais plus lequel de vous trois qui disait que ça clash avec le ton du film, mais tout de suite après, c'est les cinq gars qui sont dans l'eau en train de se garrocher de l'eau.
Ils se promènent en char puis ils checkent les filles. Là. Jim qui vient tout juste de broyer la scène précédente. Là, oui. Wow, la belle papa! Wow!
Ouais.
Il y a quelqu'un qui dit « They don't make buns like those at the bakery » en parlant du cul des filles.
Ouais! J'avais manqué.
Buns like those down at the bakery. Baby, I need you.
Puis une belle technique de Crow, c'est de demander à la fille de t'embrasser. Mm. Hey, donne-moi un bec.
Ouais, c'est pas très 2020, ça.
Mais c'est drôle, ce moment-là. Ben, pas celui de Jack, mais je parle plus de celui de Jim. Jim, j'ai tout le temps eu l'impression qu'il était homosexuel. Tu sais, t'écoutes le film, ça a l'air d'un personnage qui a l'air juste comme attiré envers les hommes. Puis là, quand tu le vois là dans la Jeep, en train de regarder les filles, puis faire ooh girl, puis là, je suis comme ça me semble que ça fonctionne pas avec Jim. C'est pas mon Jim, ça me semble.
C'est pas mon Jim.
Oh my God!
On passe à Yoshito. Je pense que c'est Yoshito. Je suis même pas certain, mais le ninja blanc du début, l'espèce de boss qui va demander à Jeff, le frère de Jane. Il va lui demander de faire disparaître Dragon Sound, le groupe. Puis, je trouve ça tellement intense qu'il y a comme des vrais méchants, tu sais, qui veulent faire disparaître un band de bar de surcroît. Tu sais,
non, mais c'est des justiciers.
C'est pas juste je sais bien.
Mais ça, cette scène-là, c'est-tu au gym, une espèce de gym ou place de boxe, c'est ça?
Ouais, je pense que... Je sais plus.
C'est après ça, mais est-ce que le bout du gym, moi, ça m'a vraiment fait rire fort, là, le monde qui s'entraîne en criant. Là, ah! Ah!
C'est pas de même qu'ils s'entraînent, les gens, d'habitude?
Ben, peut-être, selon que je parlais dans un gym, je te dirais.
Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi ils mettent la musique forte dans un gym?
Je sais pas.
Sinon, ça aurait un peu l'air d'un gay porn.
On passe à un genre de tutoriel de taekwondo par Mark, un long kata filmé comme en plan séquence, plan pied. Puis il va finir en regardant la caméra, vraiment comme un tutoriel. Puis après ça, ses élèves vont se mêler à lui. Puis là, il va faire des routines de taekwondo.
C'est vraiment une démonstration. Une démonstration de vraiment, ce qu'on peut faire. Ça. Puis il y a comme des ralentis au milieu d'un plan.
Oui.
C'est comme un peu des bullet time, mais moins bien faites, là. T'sais, c'est comme...
Ouais.
Des finitions bizarres, là. Comme un point dans la bouche qui reste là pendant trop longtemps, ou la fameuse séquence avec l'orteil. Tu sais, c'est ça qui est drôle. Dans des films d'arts martiaux, t'as tout le temps comme des techniques mortelles, le DMAC, ou les 5 points pour faire éclater le cœur, puis là-dedans, t'as comme l'attaque d'orteil pour t'empêcher de respirer.
Oui, c'est ça.
Il faut que tu me montres un truc coup d'œil comme un coup de boule ou un coup de pied.
On tombe sur une gang de fuckers qui part d'un resto, que les Dragon Sound aiment beaucoup. Ils partent du resto sans payer, puis en plus, ils essayent de crisser une volée au cook qui leur court après. Ça prend-tu une belle gang de mangeurs de marde pour faire une affaire de même?
Restaurant. Ils ont sous-estimé le cook.
C'est ça. J'avais noté en majuscule, mais... ce gars-là est plus costaud qu'eux.
Puis il est tellement sympathique, ce personnage-là. J'aurais tellement voulu le voir plus. On dirait un espèce de...
spin-off.
Un monsieur Miyagi plus cheap, tu sais. Mais en même temps, creepy. Parce qu'il y a une séquence où ils sont tous en train de manger une pointe de pizza, puis t'as lui qui reste là, puis qui regarde avec le sourire.
Oui, c'est vrai.
Il mange la pizza, puis lui, il est juste comme...
Il s'imagine en train de la crisser une volée.
Ouais, ou peut-être qu'il a mis de quoi dans la pizza. Puis
et c'est exactement ce que je me suis dit. Il a mis de quoi dans la pizza, puis il check. Ils vont vomir.
Si Miami Connection avait marché, on aurait eu le spin-off Diner Connection avec ce personnage-là.
Hey, ça aurait été épique.
Il y a quand même un tablier de Mickey Mouse, ce petit fucké-là. Puis son restaurant, il ressemble à une cabane à sucre.
Okay,
avec des nappes carottées là. C'est peut-être le fardoche asiatique.
C'est bon à
Sirona.
Je sais pas si t'étais rendu là en tout, mais il y a une conversation entre Jane et son frère, puis moi tout le long je pensais qu'il était dans les toilettes, mais ils sont dans le bureau du méchant. À cause de le décor, c'est comme, je sais pas c'est quoi, du marbre. C'était pas du marbre, mais c'est comme en noir, des pierres noires là en arrière.
Moi, je pensais à un ascenseur.
Quelle scène tu parles, je sais pas où dans le film, mais...
Ben, j'ai noté ça.
Je pense que je l'aurais skippé, fait que t'as bien fait d'en parler. Tu sais, les gars, après la démo de taekwondo live pendant un show rock, les gars vont sortir puis ils vont se rendre compte que Jeff, le méchant avec la barbe, leur a laissé un message dans le pare-brise. Donc, Jane va aller voir son frère dans les toilettes. C'est là. Puis elle est en beau fusil. J'ai noté ça.
Ah ouais.
Elle est tannée. Elle veut sa relation avec John. Ça suffit, là.
Ah ouais, exactement. Puis les Dragon Sound vont se battre avec l'ancien band et les goons de Jeff. Sont juste 3 contre 20 gars, genre. Tu sais, là, ils sont comme dans une cour de wagon. Il y a l'ancien band qui attendent Dragon Sound. Toujours porté à dire Dragon Force, mais
c'est Dragon Sound, ouais.
Il y a de quoi de super hot à ce bout-là, tu sais. Un peu le cliché, là, les méchants qui attendent. Mettons que les gentils arrivent, là. T'as un dude qui joue avec un couteau. Là, t'as un dude qui est en train de déguiser de quoi, mettons un bout de bois. Puis t'as un bruit d'aigle. Tu sais, genre,
c'est
là
vrai.
Comme pour un build-up, là.
Tu sais, le bruit du vent aussi, là.
Oui, c'est ça. Il y a de quoi de cool. Il y a comme un gars qui est probablement, genre, là, il essaie de spotter les gentils qui arrivent, puis il court ses trains. Moi, j'ai dit une clap à ce gars-là. C'est quand même hot, là, courir ses wagons de même. J'ai trouvé ça quand même cool.
Il y a une couple de séquences de combat durant cette scène-là qui est cool. Là. C'est comme il va frapper le visage du gars sur un des wagons de train ou quelques cascades, comme tu dis, sur les wagons. Ouais, rien d'extravagant, mais... Puis t'as le préféré de Joël, le pseudo Kid Rock, qui commence à faire des simagrées pour finalement manger un coup de pied en one shot.
Ouais, c'est un peu là que j'ai noté, là, que c'est un peu la tapette de théâtre d'été revisité un
peu. C'est plus, je le vois plus comme un espèce de comic relief, pas clair.
Ouais, moi, je le voyais comme un Just to Buy.
Il y a 2 policiers qui arrivent sur la scène, puis on voit que c'est des bons acteurs. En fait, c'est pas des acteurs. Il semblerait-il que c'est des vrais policiers.
Ouais. Oui.
Puis Puis il y en a un des deux qui était tellement nerveux qu'il a comme pointé son gun sans faire exprès sur le chest de l'autre. « Hey, je sais pas où est-ce qu'ils sont! » C'est ça. J'ai lu ça dans des fun facts, que c'est intéressant.
Puis tout de suite, après, il y a une scène qui est somme toute assez inutile à l'avancement de l'histoire. En fait, elle l'est vraiment. Mais elle était digne de mention. C'est une scène où il y a des bikers qui se rencontrent dans un bar, puis il y a des femmes qui se montrent les seins pour aucune raison, juste de même.
Ben, c'est un film de gars. C'est ça que ça sert. Des boules!
Film de gars à TV.
Le vendredi soir, c'est film de gars. Ce sera une belle soirée. À TVA.
Puis la séquence est vraiment long.
Oui,
il est long.
Puis Jeff, le barbu, va arriver puis va essayer de faire avancer l'histoire, mais tout de suite, le ninja blanc, Yoshito, va dire « Pas aujourd'hui. » Puis là, on va les voir prendre une bière. Plus de son, juste de la musique. Puis du monde.
Il y a un clodo aussi qui semble se commander une bière, mais il n'y a comme pas de son.
Oui, il n'y a plus de son rendu là. C'est vraiment c'est juste les chats d'eux autres sur le party.
Je pense que le but premier, c'est de donner envie. Tu sais, de faire comme, t'as vu comment les méchants, leur vie est haute, ils ont plein de femmes alentour d'eux, plein d'alcool, mais tu sais, rien d'en tirant en dehors de ça. On dirait comme un vieux bar d'une petite ville cheap d'une campagne avec des rednecks un peu, là. Fait que c'est pas alléchant.
Moi, j'ai lu que c'était des vrais motards.
Oui, payés en bière.
Ils étaient payés en bière.
Dans le fond, ce qu'ils ont filmé, c'est le jour de la paye.
Ouais, c'est ça. Il était une centaine à la première du film.
C'est vrai, t'as raison, j'avais oublié ce détail-là.
Ouais.
Fait qu'on voit, on revient à Dragon Sound, toujours porté à dire Dragon Force, puis pourtant, j'ai jamais aimé ce band-là. J'ai toujours trouvé ça absurde, un band dont le marketing tournait autour du fait que les gars jouent plus vite.
Ça, ouais, c'est ça la toune pas faisable à Guitar Hero 3.
Ouais, ouais,
exactement,
c'est
ça. Rocky, stop!
Un truc que, à la base, dont tu n'as pas véritablement besoin, puis on te le vend en disant qu'il est plus une qualité dont tu te calisses. Là. Comme le Big Mac, c'est les panneaux d'autoroute qui est plus juteux. On s'en bat les couilles. Là.
Je le trouvais sec avant, le Big Mac. Là, il est plus
c'est ça, moi j'ai toujours trouvé sec. Depuis qu'il est plus juteux, j'en mange à tous les jours. On voit le band sortir de l'université, puis on comprend que c'est des vedettes, là, comme je disais plus tôt, de renommée municipale, puis ils vont se faire suivre par des groupies du campus, puis après ça, par des goons qui vont enlever le guitariste. Et là, ça niaise plus. Là, hey, on s'entend. Il faut juste se rappeler que les goons s'en prennent à Dragon Sound parce que ce groupe-là est engagé dans un bar puis ils vont faire une prise d'otage.
Ouais.
Faut que je fasse un Joël.
Juste escalader.
Ben ouais, vas-y.
Faut que je fasse un Joël. Si je suis mal à l'aise de couper dans l'élan.
Mais non, vas-y. Vas-y.
Dans le bar, le méchant, il boit une Coors. Puis quand il aboie sur le côté, il tasse ses doigts pour qu'on voit bien le logo, puis il aboie.
Ah ouais? Ah, je comprends pas ça.
Tu penses que c'est un sponsor du film?
Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il voulait être sponsorisé, mais c'est... Tant qu'il... En tout cas, de mémoire, là, il tient peut-être comme un peu croche pour qu'on voit bien.
Les gens qui font ça, là, plugger une
commandite
de bière, là, ça m'écœure assez.
Non, mais on s'attend-tu que la compagnie de bière, ils ont vu la séquence dans le bar avec les filles tout nues, tout ça, puis ils ont comme fait, ça nous représente pas.
Non. En même temps, tu sais, je veux dire, Wacky Kim, en étant son premier film, espérait vendre à un distributeur. Peut-être qu'il s'est dit, comme ça, même ça marche dans le monde du cinéma, on plug un logo de bière big time et après, il nous donne du gros cash pour avoir fait ça.
Steven, tu l'as dit au début, là, ça paraît qu'il y a de l'amour dans ce film-là, mettons, dans les artisans qui ont travaillé. Puis moi, j'ai le gros feeling, l'espèce d'American Dream là, de l'étranger qui vient aux États-Unis pour comme grandir. Tout ça. Fait que j'ai vraiment ce feeling-là. Fait que tu sais, il y a comme les clichés, mettons, qui viennent avec.
I left my homeland country, Korea, 1976. I wanted to achieve the American dream, so I immigrated to USA. But when I arrived, I was homeless. I told many friends, I am going to open the best school in the USA. My friends called me crazy,
But they could not stop me.
C'est tellement drôle que tu dises ça parce que dans les bonus du Blu-ray, c'est ça que ça mentionne, qu'il essayait de vivre le rêve américain. Puis que il a écrit des livres, il a fait des cours en DVD qu'il essayait de vendre de taekwondo. Puis tu sais, vraiment, il essayait de percer puis de vivre le rêve américain. Puis apparemment, la façon qu'il en parlait, c'est « je suis en train de le vivre, puis c'est génial ». Fait que tu sais, peut-être que son film n'a pas fonctionné, mais il semble avoir eu du succès peut-être avec... Justement, tu sais, veux pas, le gars, il était crissement connu en termes de taekwondo. Tu le voyais sur des pages de magazines avec Chuck Norris, puis Chuck Norris le connaissait, puis tu sais, vraiment, dans le milieu, le gars était vraiment connu. C'est peut-être juste en termes de cinéma, il a essayé, puis ça a juste pas marché.
I showed to over 100 distribution companies. Wow. Every single one say, what? It is trash.
C'est un peu intense, là, le guitariste qui se fait enlever et torturer parce qu'il a pogné une gig dans un bar, tu sais, puis le nouveau spot où il va avoir le combat, c'est comme une espèce de ferme désaffectée, là, je sais pas trop, là, un mélange de ferme puis de dompe.
Ouais, on dirait un genre de dépotoir. Là,
ouais, puis... c'est ça, mais il y a des silos aussi. Des gros silos, puis des déchets, beaucoup, des gros déchets de la ferraille.
Puis beaucoup de battes avec des clous. Puis là, on dirait à ce moment-là, on tombe un peu en mode Mad Max, film post-apocalyptique avec des armes vraiment fucked up, puis tout le kit. Là.
C'est vrai, ça. Puis on n'a pas ça nulle part ailleurs dans le film.
Non, non.
C'est comme dans. C'est quoi le jeu vidéo que tu parlais tantôt, Steven? Là?
Street of Rage 2.
Ou bien Final Fight là, ou Super Nintendo à l'arcade.
Ouais.
Antoine, il ne comprend pas la référence puis qu'il va couper ça au montage.
je cherchais un jeu de moto dans lequel tu te fesses avec des battes avec des clous.
C'est Street Rage.
C'est Road Rash.
Road Rash. Tous les jeux s'appellent Street Rage pour moi.
Moi, j'avais la version Rollerblade.
OK.
Skitchen, il dit. Tu sais, mettons, en fait, c'est une course, mais tu peux ramasser des trucs à terre pour fesser le monde. Il y a des chars, tu peux t'accrocher en arrière des chars pour aller plus vite. C'est de la fucking bombe.
Fait que John et Mark viennent à la rescousse de leur guitariste, du guitariste de Dragon Sound. John va faire un ombrade à un gars. Mark va ouvrir le cou d'un gars à coup de bâton. Jim va sortir d'un tonneau comme Miss Univers qui sort d'un gâteau.
Comme une marmotte un peu. C'est là qu'on se rend compte que Jim ne sait pas se battre. Jim ne connaît pas le taekwondo.
Jim sait être en chest. C'est ça.
Ouais, pas mal ça.
C'est dans le film.
Puis il tue les gentils. Les gentils, ils tuent les méchants, là. C'est pas comme Batman. Oh, je t'assomme, puis tu t'en vas en prison. Non, il les tue, là. Ça m'a surpris, ça.
Ça sort de nulle part, tout d'un coup. Juste avant, ils font juste leur péter la gueule. Mais à partir de là, je sais bien qu'ils ont kidnappé leur ami, mais tout d'un coup, ils deviennent vraiment violents. Puis c'est comme, on les tue. C'est fini le niaisage. On est écœurés de se faire achaler. Là.
Là, c'est fini les arts martiaux. Là. On prend des armes. Là. Ouais, on se tasse.
Exactement. Puis Jeff, le méchant barbu, là, va commencer à se battre. Il va commencer à se salir les mains. Là. Fait qu'il... Il se met dans la mêlée, il monte pour empêcher Dragon Sound de libérer l'otage, leur guitariste, mais il tombe au ralenti avec un gros cri grave.
Oh! Avec de l'écho, là.
Oui. Oui. Le boss des ninjas apprend la mort de Jeff, et là, on voit les ninjas pratiquer la chorégraphie de Baby One More Time. Ils vont courir aussi sur une espèce de petite passerelle de bois qui ressemble à l'île Saint-Quentin, à Trois-Rivières. Là.
Non, mais on dirait des ninjas qui s'entraînent dans un parc. Là. Je sens pas des enfants pas loin.
Ils s'entraînent dans une petite piste de Bertis.
Hey, ça aurait été malade, tes voix s'entraînaient avec les anneaux.
les pneus à terre. Là.
La glissade.
Ça mise à glisser.
Le même entraînement que dans L'Ultime Menace.
On retombe à une scène de Jim qui reçoit une lettre, mais cette fois, c'est la joie. « I found my father! Oh my God! » Puis sa voix devient super aiguë tout d'un coup.
C'est culte. Ce film-là s'est bâti une réputation avec Jim, puis cette séquence-là, puis son fameux « My father! I found my father! » Oh my God! C'est parfait.
My father! I found my father! Oh my God!
Ce genre de film-là, quand quelque chose de joyeux t'arrive, il y a des chances que tu meurs. Je ne vais pas spoiler, mais...
Ben, on y arrive, là, parce que en se rendant à la rencontre du père, ils se font arrêter par les biker ninjas.
Les ninjas en moto.
Et là, ils débarquent la décapotable pour aller se battre dans la forêt, tout près de la route. Ils se pitchent en bas d'un pont. C'est là qu'on se rend compte à quel point la musique est omniprésente dans le film, parce que la scène de combat se passe dans le silence total. Il n'y a aucune musique, ouais, jusqu'à temps qu'un ninja attaque Jim. Et là, il y a une musique dramatique. Il se prend un sale coup de sabre. Il lâche un long cri.
Le cri est très long.
J'étais pas sûr jusqu'à ce moment-là, j'étais pas sûr de quoi penser du film. Ah, c'est vraiment risible. Mais les 20 dernières minutes, là, ça
a fait
ça
c'est bon. Bon, c'est du bonbon. Ah,
c'est là qu'on entre en mode fuck off, on est des tueurs, on va massacrer, la violence prend le dessus, la rage prend le dessus, puis Mark fait des simagrées les plus intenses que tu peux imaginer. Là, c'est comme la version coréenne de Sylvester Stallone qui veut venger son frère. Là, puis...
Il fait des bouches en ovale comme Yolande Ouellet.
Non, c'est lui.
Comprenez ce que vous voulez ou ce qu'a dit. Où est-ce qu'il est, le petit bam?
Puis moi, j'ai trouvé que c'était très Sith style, tu sais, comme quand Anakin va tuer les hommes des sables pour un peu venger sa mère, tu sais, genre, c'est comme il switch, là, genre, puis là, il sort de là, il est quasiment, genre, les yeux pleins de sang, là, tu sais.
Ouais, il rugit. Ça. Il ouais, rugit en stab. Il stab un ninja qui est tombé à terre. C'est
pas mal la séquence la plus sanglante du film. T'sais, t'en as un qui se fait défigurer le visage avec l'œil pratiquement qui est sur le bord de pendre. T'as des giclées de sang dans le visage. Vraiment, c'est comme... Vous voyez le message? La violence n'engendre que la violence.
Exactement. Il déchire son chandail aussi pour se mettre en chaise. Ouais. Il est vraiment fâché.
On n'est plus pantoute dans le taekwondo. Là. C'est rendu on tue avec des katanas.
Non. Puis tu sais, là, le dernier ninja encore vivant, mais on s'entend comme magané, va se rendre au boss. Pour dire comme tout le monde est mort.
C'est bon, ça.
Il va y couper à la tête.
Il va faire le rire diabolique ultime.
Ça mène à l'affrontement final. Allez, ils vont se battre ensemble, Mark et le ninja blanc Yoshito. Puis à un certain moment, on pense qu'il est mort, mais non. Fait que le Mark le sent arriver dans son dos. Un vrai ninja.
cette séquence-là, vous avez sans doute remarqué, mais c'est pas parce que t'as un habit de ninja que ça camoufle ton cascadeur. Parce que là, c'est clairement John qui fait la doublure du ninja blanc. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le dude qui interprète le méchant peut... combattent autant, mais on ne le voit jamais réellement dans les scènes d'action. Puis là, je peux clairement voir c'est les yeux de John avec ses sourcils.
J'avais vraiment pas remarqué ça, Steven. Ouais. Mais ça, c'est le fruit d'une dizaine d'écoutes.
Certains, ouais.
Je me suis noté que c'était garoché. Tu vois là, qu'ils ont tué tout le monde, le méchant, il rit, il coupe la tête, il rit. Tout de suite, il commence à se battre. Il n'y a même pas de dialogue. Ça l'a pas. Il aurait pu avoir une certaine tension, mais non, ça. C'est juste
mais ils se connaissent pas. Tu sais, la plus grosse attention, c'est avec le frère. Fait, tu sais, un coup que le frère est disparu, même le chef ninja doit même pas savoir à quoi ressemblent les gars de Dragon Sound, là.
Fais moi donc un riff de Git.
C'est un peu anticlimatique, mettons, là.
Ouais.
Alors
ouais,
que tu t'attends une finale vraiment épique avec le grand méchant blanc, là.
Ouais, moi, j'ai lu dans mes recherches que la scène de combat finale entre le ninja blanc puis l'autre gars, c'était pas prévu. Ils ont rajouté ça pour plaire aux distributeurs. Puis,
Mais sinon, c'est...
C'est la mort de Jim. Au départ, dans la première version, Jim devait mourir en se rendant à l'hôpital.
Ben, les deux, ils
ont... aussi ce que tu as dit, Joël, mais je pense que c'est suite à un... Pour ajouter, c'est suite à un screening à Cannes, un screening pour vendre le film à des distributeurs. Qui ont fait comme il manque, les distributeurs, ils ont dit comme il manque ça à ton film.
C'est trop downer, ils trouvent ça trop downer.
Puis, Puis là, c'est YK Kim qui a dû retourner, qui a dû faire du reshoot parce que Richard Park, Wu-Tang Park, était retourné en Corée. Fait que YK Kim a lu sur la réalisation, puis il a demandé à un de ses acteurs, Joseph Diamond, de lire sur la scénarisation. Les deux qui n'avaient jamais fait ça ensemble ont réécrit certains trucs dans le film.
Don't die.
Kim, you cannot die. You need to die. You need to see your father.
Hang on.
Jim, your father is coming now.
Oh no. Jim's father's on that plane.
Les gars vont emmener Jim à l'hôpital. On est sûr qu'il est mort parce qu'il est comme il est fendu en deux, bord en bord, par un coup de sable. Puis, ben non, il va survivre par le pouvoir de l'amitié.
Nous allons combattre le crime par le pouvoir de l'amitié. Calinours, tous en formation amour et compassion. Ching!
Comme vraiment.
Et de papa qui est présent.
Ouais.
Oui, exact. Ouais.
Papa qui semble avoir le même âge que Jim avec une cacane de Noël blanc.
Ouais. Ils sont à l'hôpital. Tu sais, puis la grosse morale, personne ne va s'en prendre à notre band. Le freeze frame de la fin avec des gens qui ne savent pas où regarder.
C'est final, quelque chose.
Bizarre. Là, mais
bref, ça paraît que c'est un reshoot, c'est une scène rajoutée.
T'es assez garoché. T'es assez que le père, mettons, au début, j'étais comme, c'est-tu lui déguisé en vieux?
Je
pensais que c'était Jim qui était déguisé, puis comme là, là tu vois les deux, t'es comme ben non, ouais, c'était juste à chier.
C'est comme il était une fois les boys, ils jouent leur père.
c'est sûr, c'était ça. La petite morale à la fin, là.
Seulement en éliminant la violence qu'on atteindra la paix dans le monde.
Ouais,
message douteux compte tenu des séquences de violence hyper
gratuites qui
précédaient ça.
Ça finit, moi j'ai écrit que ça finit dans la rage et la haine. Tu vois, ce message-là, je suis comme ah, calique.
Ouais, ça marche pas, là.
Dans la scène de combat dans le parc, mais après ça, c'est que de l'amour. Il y a le père qui dit qu'il va tout le temps être là pour toi, Jim, puis les amis qui sont comme oui, nous aussi.
T'es chanceux d'avoir des amis comme ça.
Ouais. Ouais. Non, il y a beaucoup d'amour à la fin. Là, t'as oublié ça, je pense, Jean-Cable.
C'est vrai, t'as raison, mais la dernière phrase, comme fait tard, non. ils ont passé à côté de quelque chose.
Moi, il y a une couple de petits fun facts que j'ai notés. Notamment, c'est un des plus beaux, si c'est pas le plus beau poster des films qu'on a écouté dans le cabanon.
Ouais, il est cool.
Rien à voir avec le Full Finding de Neil Breen. C'est vraiment un beau poster.
C'est de toute beauté, puis c'est vraiment génial de voir Jim ici avec la lettre et la boîte aux lettres. C'est de toute beauté.
Il est vraiment beau.
Il est vraiment beau.
Je me souviens, il était imprimé dans notre décor la première année, puis j'étais comme si... C'est un beau poster, mais Chris, ça a pris 3 ans avant qu'on parle du film.
C'est ça que j'aime pas. Tu sais, il y a eu une mode à partir, je dirais, tu sais, de quand Robert Rodriguez puis Quentin Tarantino ont fait Greenhouse, de ramener le cinéma comme volontairement mauvais. Puis j'aime pas ça, tu sais, les nanars volontaires. Je trouve qu'on ne retrouve pas le même charme. Tu sais, on essaie d'être mauvais, mais c'est pas pareil qu'un film qui essaie d'être réellement bon. Puis souvent, quand tu avais les affiches, je sais pas moi, l'affiche de Machete, j'étais comme, oh, l'affiche est badass, tu vas voir le film au cinéma, j'étais plus ou moins déçu. Ouais. Mais là, tu regardes cette affiche-là, tu sais, c'est le genre d'affiche que tu rêves de voir, puis le film t'offre ce que l'affiche te donne, tu sais. C'est ça qui est fun, c'est satisfaisant. Ouais.
C'est comme Samurai Cop 2, là. C'est self-aware, puis ça marche crissement pas.
Ouais,
là.
On sait
faire comme le premier.
Ever since I burn, I earn it, not burn, but burn!
La chanson Friends dont on a parlé plus tôt, le premier vidéoclip du film, est utilisé à la fin de Far Cry 3 Blood Dragon. Ça, puis on fait de sur quoi on fait référence à Miami Connection dans le clip Happy de Pharrell Williams. Je sais pas si vous vous souvenez de cette chanson-là. À l'époque, il avait sorti comme des clips de 1 heure de gens qui dansent sur la chanson Happy.
Il y en avait un à Shawinigan, d'ailleurs.
Ben, il y en a un dans le clip de Pharrell Williams qui porte un chandail de Dragon Sound, si je me trompe pas, l'espèce de camisole rouge qu'il porte dans le film. Et il y a aussi la trame sonore, tant qu'à parler de ça, existe en vinyle. Ils ont fait un tirage limité de, je pense, 800 copies. Je sais pas, ils en sont où avec les ventes de ça. Comment t'as dit ça, Steven?
D'après moi, c'est terminé. J'en voulais un.
C'est possible.
Même chose pour le Blu-ray, je pense que c'était
Il y a pas mal de merch, en fait. Ils ont fait la camisole, ils ont fait les posters, ils ont fait les vinyles, ils ont fait les
Blu-ray. En fait, quand t'allais directement sur le site, tu pouvais acheter un bundle, puis t'avais le vinyle, le film, le t-shirt.
Ouais, puis je pense que c'était alors 35$. Là. C'était pas fou, là.
J'ai juste pris le film. Ça. Comme un cave, j'aurais dû prendre la
caméra
de vinyle. Oh, je le regrette, je le regrette.
Puis vous autres, les gars, y a-t-il quelque chose dont on n'a pas parlé?
Non, moi, c'est tout dit.
Ah! C'est pas vrai. Puis je pensais que Joël, t'allais en parler. Red Letter Media, dans leur première saison, ont parlé de Miami Connection. Ils ont fait un épisode où ils l'opposaient à Hard Ticket to Hawaii puis Deadly Prey, qui sont deux autres films sur notre liste
énorme
depuis le début.
C'est deux gros classiques, ça, avec.
Et à 3 contre 1, c'est Miami Connection qui avait gagné l'épisode de Best of the Worst.
Ah ouais. Oh, j'ai vu ça passer aussi, mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir un autre podcast semblable au nôtre qui pourrait nous citer, il pourrait dire « Ah ouais, les films dans le cabanon, ils ont donné telle note à tel film. »
Mais il n'y a pas un autre podcast dans le même genre, Trash quelque
Trash
chose.
Talk.
Trash
Talk.
Ouais, c'est ça.
Avec ça, il y a un drinking game, donc j'ai créé des règlements qui vont... Je pense revenir souvent dans le film. On n'a pas vu le film.
C'est ça.
On rit, on a du fun, c'est casual.
Je devais acheter des chips, moi ça me fait un souper. Je suis bien content.
Je vous rappelle les notes pour Steven, qui est notre invité. Nos notes sont sur 10 à moins 10. 10 étant un chef-d'œuvre, moins 10 étant le So Bad It's Good, tellement risible qu'on a envie de le réécouter encore et encore. Je commence par toi, Steven, vu que tu es notre invité. Je pense que tu es quand même familier avec notre système de notation.
Ouais.
Tu irais avec quoi?
Mais c'est sûr, je ne vais pas aller en haut du zéro. On est conscient de ce que c'est. Mais honnêtement, c'est un moins 9.5 sur 10. Puis je serais presque à l'aise à aller au moins 10 sur 10. Pour moi, c'est facilement dans mon top 5 des meilleurs nanars que j'ai vus. Puis écoute, je l'ai vu quoi? Une dizaine de fois, comme j'ai dit. C'est la preuve que ça fonctionne à fond. Là. C'est le genre de film que tu as du plaisir. Puis à chaque fois que je le revois, je prenais mes notes. Puis j'étais comme, my God, ça arrête pas. C'est comme, faudrait que j'arrête d'avoir des notes parce que j'ai l'impression que l'épisode va jamais finir. C'est le genre de film. Tu sais, c'est 1h23, je pense, la durée. Puis 1h23 passe comme une lettre à la poste. C'est du bonbon. Du bonbon en termes de nanar. Puis n'importe qui est fan de trash doit absolument voir Miami Connection, selon
Totalement
moi.
Totalement d'accord. Jean-Gab?
Ouais, moi j'ai eu énormément de plaisir avec le film. La musique, c'était le fun. Le fait qu'on comprend pas ce que le personnage principal dit quand il parle, hostie que ça me faisait rire. Il y a du taekwondo là-dedans, ça me rappelait des petits souvenirs là, d'une époque, de mon époque plus glorieuse et plus en shape. Moi, je vais donner un 8. Pas dire 8.5. J'aime bien l'enthousiasme.
Moins 8.5?
Moins 8, oui, moins 8. Oui, moins 8. Un moins 8.5.
Le meilleur film depuis Godfather de Francis Ford
Oui, c'est Coppola. Ça. j'ai vraiment aimé ça. Un moins 8.5.
Moi aussi, je vais y aller avec un moins 8.5. J'ai failli donner moins 9, mais je pense que je préfère encore Samurai Cop, auquel on a donné moins 9, juste pour être fair... En même temps, si je réécoute Samurai Cop après avoir vu Miami Connection, j'écoute les deux un à la suite de l'autre, peut-être que ma note changerait, mais je pense que c'est un nanar incontournable, film années 80, cheesy à fond, puis c'est vraiment les 20 dernières minutes, que je l'ai dit tantôt, mais les 20 dernières minutes, ils font le film, parce qu'avant ça, j'étais comme pas ça, c'est-tu vraiment si mauvais que ça, c'est mauvais, mais, mais non, la fin, là, la finale, c'est... C'est parfait, fait que moins 8.5.
C'est quoi votre plus haute note? Vous avez-tu déjà donné un 10 sur 10? Je me rappelle
plus. Moins 10?
Moins 9,
on a... Je pense pas, non. Je pense
moins 9, c'est notre
moins 9.
On a
Faithful,
jamais osé.
Peut-être? Faithful, Love on a Leash.
Non, c'était Faithful, c'est moins 8. C'est Love on a Leash puis Wicked World.
My name is Alvin Fuang.
Ben, je vous trouve généreux, Colin. Moi, c'est plus un... J'hésitais entre le moins 6 puis le moins 7. Puis en parlant, je pense que ça va être un moins 8. Mais j'irais pas plus bas que ça parce qu'il y a quand même des longs passages dans le film où j'étais comme... c'est pas si risible. Tu sais, c'est honnêtement le film... pour le raconter, là on en a parlé longuement, mais pour le raconter, j'ai pris moins de notes parce qu'il n'y avait pas énormément de moments notables. Tu sais, on a parlé de Wicked World, on a parlé de Samurai Cop. Peut-être qu'en écoutant back-à-back avec Samurai Cop, je me rendrais compte que c'est à peu près égal, mais dans mon souvenir, Samurai Cop est plus risible, plus So Bad It's Good, mettons. Mais quand même, Miami Connection, j'avoue que c'est un must, puis on aurait peut-être dû en parler avant. Fait que je vais dire moins 8.
OK, mais il existe-tu? Sûrement pas, il doit pas exister de doublage de ça.
J'ai vu que les gars de Nana Arlen, j'en cherchais un. Tu t'en parles, puis j'ai pas trouvé, mais pour le montage, s'il existe un doublage, ils vont avoir un extrait là.
Si on les faisait avaler ses lacets au minet.
Jeff, je te présente John.
John m'a dit beaucoup de bien à votre sujet.
Où t'as dégoté cette espèce de fils de pute?
C'est un de mes amis de cours.
Ce truc-là? Et si on lui montrait ce qu'on fait au petit con de son espèce?
Et pourquoi t'agis comme ça?
Ferme-la! Espèce de salopard, si je te vois encore près de ma sœur, je te fais sauter les dents!
Ça, c'est un élu, espèce de fils de pète! À cause de vous, pendant foiré, j'ai promis mon job! J'ai été foutu dehors par votre faute, bande de connards! Je vous donne un conseil avant qu'il soit trop tard, cassez-vous de cette putain de ville avant que je me fâche! Sinon, on vous démolit!
Écoute-moi bien, on n'a pas envie d'avoir des problèmes. On a eu ce boulot-là régulièrement par notre agent. Commence pas à nous les casser!
Excusez-moi, mademoiselle, je voudrais juste un petit baiser. Un tout petit, s'il vous plaît, je ferme les yeux.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, truc là?
Puis s'il n'y a pas de doublage, je vais avoir mis un extrait là, de Love Actually en français. Là.
Un doublage qui a été fait en 2013, là, ça compte pas. Là. C'est un doublage
de l'époque. C'est un peu comme Birdemic, un doublage amateur.
Ouais. Ruth! Ramsey! Elle est morte! J'ai rien pu faire, elle est morte!
Qu'est-ce que tu sous-entends par elle est morte?
C'est déjà tout. Merci d'avoir été là encore une fois. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, filmdanslecabanon.com. On est aussi en audio partout. Gros merci, Steven Lefrançois. Allez suivre Séance de minuit si vous ne le faites pas déjà. Je sais qu'on en a parlé plein de fois, mais si vous ne nous avez pas écouté encore, là, il serait comme temps. Là, allez écouter Séance de minuit. C'est des références en matière de bons films, donc on est complémentaires en quelque sorte. Nous, on parle de mauvais, eux parlent de très bons. Fait que quand vous avez envie d'écouter des bons films, c'est Séance qu'il faut.
Dans le fond,
écouter.
Qui est le ninja blanc entre nous deux?
Oh. Merci encore à la microbrasserie Les Grands Bois pour les bières. C'est super apprécié. Sur ça, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si ça va être sur Zoom ou dans notre décor.
C'est pas le temps de faire des parties.
Mais on va être là. On va être là pareil. Good job!
C'est sûr que ça va être sur Zoom.
C'est sûr, en astuce, c'est sur Zoom.